Chapitre 13. Le week-end se révéla l'un des plus pénibles de mémoire de Henry James. Sa dépression, s'intensifiant au cours d'une longue nuit sans sommeil, s'était accompagnée d'une plus grande clairvoyance. Peu avant le lever d'un jour gris à ses fenêtres, il avait décidé que, à la minute où Holmes quitterait la maison ce samedi, il parlerait à John Hay et confesserait son péché. Car pour lui, c'était bien un péché contre l'amitié et la discrétion que d'avoir amené cet étranger déguisé à l'intérieur de son cercle d'intime. Persuadé que ni les Hay, ni Henry Adams, ni Clarence King ne pourraient jamais lui pardonner, il s'apprêtait à s'éclipser sur le champ, prendre le train de midi pour New York et de là embarquer pour l'Angleterre. D'autres proches des Hay et des Adams, dont William Dean Howells, son vieil ami, seraient tout aussi outrés par son comportement inqualifiable. Il accepterait leur colère et leur désapprobation. L'alternative serait de poursuivre cette infâme mascarade, ce dont James serait incapable, il s'en rendait compte à présent. Il avait espéré parler à John Hay seul à seul après le petit déjeuner, mais Hay dut sortir pour affaires. Ian Sigerson était parti se promener et Henry James se retrouva avec Clara Hay pendant toute la matinée et le début de l'après-midi. Aussi charmante qu'elle eût toujours été avec lui, il ne put se résoudre à lui révéler la vérité. Si bien qu'ils parlèrent de leurs amis communs, du temps qu'ils faisaient à cette époque de l'année en Angleterre et sur le continent comparé au printemps précoce à Washington, de différents écrivains et artistes qu'ils connaissaient, dont Daniel Chester French, Augustus Saint-Gaudens et John Singer Sargent. Une fois la table du déjeuner débarrassée, ils discutèrent de l'œuvre de Tourgueniev et des essais de M. Emerson que James n'admirait guère, entre autres, jusqu'à ce que Clara Hay se mette à rire et dise «
Vous avez vu la bibliothèque de John, évidemment, mais vous devriez jeter un coup d'œil à mes étagères de plaisir coupable, Harry. »
James haussa un sourcil.
Des plaisirs coupables? Oui, vous savez bien, ces livres qui me donnent tant de plaisir et que John, Henry Adams, Howells et les autres jugent indignes. Mais moi, je les aime. Peut-être pourrez-vous m'offrir votre bénédiction. Venez.
Elle le conduisit dans le large escalier, puis dans le couloir de droite desservant les chambres des propriétaires. L'espace d'un horrible moment, James crut que cette femme avec laquelle il se trouvait seul dans la maison, si l'on exceptait les 7 ou 8 domestiques, allait l'entraîner dans la sienne. Mais elle s'arrêta avant, dans le corridor. La bibliothèque en acajou poli mesurait presque 4 mètres de long.
« Des romans populaires anglais ?»
s'exclama-t-il en découvrant la collection de livres à dos jaune.
« Oui. » Je ne peux pas résister à l'envie d'en acheter dans les gares quand je voyage en Angleterre.
Avoua Clara Hay en posant les doigts des deux mains sur ses joues rougissantes.
Avez-vous déjà succombé à la tentation, Harry?
Il lui adressa ce qui se voulait un sourire bienveillant.
Mais bien sûr, ma chère. Ces livres à couverture jaune aident à faire passer plus vite un ennuyeux trajet en train. Je vois que vous avez Pierre de Lune et la Dame en blanc au milieu de vos autres romans à sensation. Oh oui, j'aime tellement les histoires de Wilkie Collins, et j'ai été navré d'apprendre sa mort il y a 4 ans. Mais je lis aussi des ouvrages sérieux, vous savez.
Si je m'en souviens bien, vous avez été l'une des premières, parmi les 5 de cœur, à découvrir mon œuvre, dit James. Il sortit quelques livres de H. Rider Haggard, des romans d'aventure de 2e et 3e catégorie, et jeta un coup d'œil à leurs titres avant de les remettre en place. Tous les ouvrages de cette bibliothèque n'étaient pas, loin de là, des romans de la collection jaune, où il était invariablement question de bigamie, d'enfants illégitimes, de meurtres et de chantage, mais tous étaient des livres à sensation.
Oh, bien avant que les 5 de cœur de Clover ne commencent à se réunir, Harry. Lorsque nous nous sommes rencontrés, John et moi, nous lisions déjà vos livres, tous les deux.
Qu'est-ce que c'est ? Demanda James, prenant un ouvrage tout neuf relié brun clair. Sur le dos, il était écrit « The Adventures of Sherlock Holmes » et plus bas dans un carré « The Strand Library ».
Je suis devenue une inconditionnelle des récits de Monsieur Conan Doyle quand John et moi avons passé 3 mois à Londres il y a 2 ans,
expliqua Clara.
Hélas, on ne trouve pas le Strand Magazine en Amérique. Aussi, en apprenant le mois dernier que cette série d'aventures de Sherlock Holmes était publiée ici, 12 en tout, l'ai-je acheté immédiatement.
« Le mois dernier, dites-vous ?» murmura James en feuilletant le volume pourvu d'illustrations.
« Il est paru en février ?»«
Oui. »«
Puis-je vous l'emprunter, Clara ?» Il referma le livre d'un coup sec. Ma goutte s'est réveillée et une lecture légère et amusante m'aiderait à ne plus y penser. « Bien sûr !» répondit Clara Hay en rougissant encore. « Seulement ?»« Ne dites pas à John quel genre de livre j'ai prêté à un auteur aussi illustre que vous. Je n'aurais pas fini d'en entendre parler. » Et ils se sourirent comme deux conspirateurs. Ayant pris prétexte de sa goutte, elle s'était bel et bien réveillée et son pied gauche le faisait terriblement souffrir, James passa le reste de l'après-midi dans sa chambre. Une jeune fille vint allumer le feu et il s'assit devant l'âtre, le pied posé sur un tabouret très rembourré, tandis qu'une légère pluie commençait à strier les fenêtres. Edmund Gosse et ses autres jeunes amis qui appréciaient et lui avaient recommandé les livres d'aventure de Henry Rider Haggard et les histoires supposément vraies de Sherlock Holmes, parues dans le Strand ou dans le Beaton's Christmas Annual, pour les plus longues, ne lui avaient pas dit grand-chose sur les récits de Conan Doyle, sinon que d'après eux, Doyle était l'agent littéraire et l'éditeur du docteur John H. Watson, à qui l'on devait les histoires du détective londonien très secret, mais manifestement très occupé. James avait essayé de lire un roman de H. Rider Haggard, mais quand il en était arrivé à une scène très visuelle où le chasseur blanc faisait sauter la cervelle de son porteur indigène plutôt que de permettre qu'il soit torturé, il avait abandonné le livre et toute intention d'ouvrir un autre ouvrage signé Haggard. Les descriptions de crânes explosant dans des giclées de matière cérébrale, très peu pour lui. Les aventures de Holmes n'avaient jamais suscité la moindre curiosité chez lui. En repensant à la garden party de Madame O'Connor, durant laquelle il avait rencontré Sherlock Holmes 4 ans plus tôt, il se souvint que A. Conan Doyle figurait sur la liste des invités. Plusieurs auteurs populaires, quoique peu estimés, avaient été sollicités pour cet événement caritatif. Mais il ne pensait pas avoir été présenté à Conan Doyle, ni avoir parlé avec lui. Il ne se rappelait pas non plus la présence d'un docteur John H. Watson. Déplaçant son pied gonflé pour trouver une position plus confortable, et après avoir remercié d'un hochement de tête le valet qui venait de lui apporter son thé au citron, James ouvrit le recueil des aventures de Sherlock Holmes. James reconnut son compagnon de voyage dans les descriptions du docteur Watson, ou peut-être de Conan Doyle. La silhouette mince, le grand front pâle, les joues creuses, le nez en bec d'aigle, les sourcils expressifs et le regard intense et gris, même si l'illustrateur du Strand, un certain Sidney Paget, montrait un homme beaucoup plus séduisant et bien plus gentleman que ne l'était le vrai Holmes. Bien sûr, comprit James, il n'avait pas encore réellement vu le vrai Sherlock Holmes habillé et se comportant tel qu'en lui-même. S'il existait un vrai Sherlock Holmes. Dans la première histoire, un scandale en Bohême, James fut choqué de croiser le roi de Bohême, que Holmes avait clairement identifié comme étant le prince de Galles le soir de leur dîner tardif au Café de la Paix 12 jours plus tôt. James trouva la qualité de la prose tout au plus efficace et l'intrigue ridicule. Les stratagèmes de Holmes pour récupérer la photographie incriminante du prince de Galles étaient artificiels, absurdes et, pour finir, infructueux. Une simple aventurière avait réussi à déjouer tous ses plans. Si cette histoire était véridique, pourquoi Holmes, dont les revenus ne semblaient provenir que de ses clients privés, autorisait-il le docteur Watson à collaborer avec Conan Doyle pour publier les détails d'un échec si patent? Encore plus intéressante, aux yeux de James, fut l'impression, émergeant parfois entre les lignes ou dans un commentaire sarcastique, que Holmes, du moins le personnage de Holmes montré dans cet étrange récit, considérait le roi de Bohême, l'actuel prince de Galles, avec un froid mépris. À la fin de la nouvelle, le détective semblait content d'avoir été battu et de savoir qu'Irene Adler avait conservé le cliché compromettant. James remarqua aussi que Watson, ou Conan Doyle, avait appelé l'aventurière « Feu Irene Adler ». La Ligue des rouquins était plus amusante, mais Henry James trouva les stupéfiantes déductions du détective plutôt stupides. À aucun moment, dans ces deux récits, l'auteur ne tentait d'entrer dans l'esprit ou de percer les motivations des personnages. Watson persistait à considérer son colocataire du 221B Baker Street avec une admiration respectueuse, quel que soit le niveau d'idiotie de Holmes. Les erreurs factuelles abondaient. Le personnage roux du nom de Wilson commençait son travail, consistant à rester assis pendant 4 heures à recopier des pages de l'Encyclopédia Britannica, le 29 avril 1890. Après 8 semaines de labeur et 32 livres sterling gagnés, Wilson se présentait ponctuellement à son poste, dans une pièce vide à l'exception d'une table et d'une chaise, et trouvait un message fixé sur la porte. La Ligue des Rouquins est dissoute. 9 octobre 1890. Cependant, James fit le calcul de tête, les 8 semaines et les 32 livres n'auraient amené Wilson et l'intrigue qu'au 23 juin et pas au 9 octobre. À cette dernière date, il aurait dû avoir gagné 58 livres, 10 shillings et 2 pence supplémentaires. L'auteur faisait aussi dire à Wilson qu'au moment où la Ligue avait été dissoute et où il avait perdu son emploi, il entamait les B dans l'encyclopédie. Ayant remarqué la présence de la récente 9e édition de l'encyclopédie datant de 1889 dans une bibliothèque du couloir, Henry James sonna un valet pour qu'il aille lui chercher le premier volume. Après avoir compté les mots dans une page moyenne de la première section, James boitilla jusqu'au petit bureau, prit une feuille de papier ministre et un crayon et arriva à la conclusion que Jabez Wilson, le personnage de la nouvelle, avait recopié environ 6 419 616 mots en 8 semaines de travail. Tout ça en ne copiant que pendant 4 heures par jour. Effectuant une petite division, James en déduisit un rythme de 33 435 mots de l'heure, soit un peu plus de 557 mots la minute. Extraordinaire. Ridicule. L'auteur, qu'il s'agisse de Watson ou de Conan Doyle, n'avait pas fait son exercice d'arithmétique. Dans une autre page de cette même histoire, l'auteur négligent inflige à Holmes, Watson et un officier de police un long trajet en fiacre dans un interminable labyrinthe de ruelles éclairées au gaz, alors que leur destination ne se trouve qu'à une courte distance de leur point de départ. Plus loin dans sa lecture, Henry James ne put s'empêcher de rire tout seul. Holmes avait annoncé que le mystère devant lequel il se trouvait était un problème idéal pour 3 pipes. Puis, ramenant les jambes sous lui dans son fauteuil, il avait supposément fumé ses 3 pipes en 50 minutes, utilisant la pipe en terre noire que James avait vue pendant leur voyage. Or, une seule pipe de ce tabac grossier fumé en 1 heure aurait suffi à détruire la gorge et les muqueuses nasales de son nez. 3 auraient sûrement tué le bonhomme. Dans le mystère du Valboscombe, le personnage de Holmes se comporte avec son arrogance et sa condescendance coutumière envers Watson, un homme plus âgé, ayant une plus grande expérience de la vie et de la guerre que le prétendu détective privé, tout en prouvant encore une fois qu'il n'a aucun titre à agir de la sorte. En apprenant qu'un meurtre a été commis dans le mythique Valboscombe, près de la très réelle ville de Ross, Holmes convainc Watson de prendre avec lui le premier train en partance pour le Herefordshire. Mais une fois à Ross, inexplicablement, Holmes s'accorde 2 jours d'oisiveté à l'hôtel avant de s'aventurer sur la scène de crime en extérieur, où un homme est mort après s'être fait défoncer le crâne. Holmes insiste même sur l'importance d'inspecter cette scène de crime avant qu'il pleuve et que les indices disparaissent, puis se persuade que le beau temps durera. Pas de vent et pas un nuage dans le ciel, en consultant un baromètre qui indique une pression de 29. Certes, Henry James n'était pas météorologue. Et pour autant qu'il s'en souvint, n'avait jamais utilisé de relevé barométrique comme élément d'une de ses intrigues, mais il avait passé assez de temps avec des paysans, aussi bien en Nouvelle-Angleterre qu'en Angleterre et en France, et des capitaines de navires lors de ses nombreuses traversées de l'Atlantique pour savoir qu'une pression de 29 n'est pas une prévision de beau temps. Au contraire, si une grosse averse n'était pas arrivée, elle se préparait sûrement. Holmes finit par résoudre le mystère en déduisant que le dernier mot supposément incompréhensible de la victime à son fils, accusé d'être le meurtrier, Arat, devait signifier Ballarat, et que le meurtrier était donc originaire de Ballarat, en Australie. Mais même en admettant que le coupable soit australien, il suffit à Henry James d'ouvrir le premier volume de l'Encyclopédia Britannica pour voir que plusieurs noms de villes et de régions d'Australie se terminaient par Arat, dont Ararat. La consternation de James devant tant de désinvolture, sans même parler du style négligé, ne diminua pas à la lecture de l'homme à la lèvre tordue. Dans cette nouvelle, l'épouse du docteur Watson, qui reçoit la visite nocturne d'une femme en détresse, qu'elle reconnaît bientôt, malgré sa voilette, comme une de ses connaissances du nom de Kate Whitney, dit « Allons, prenez un peu de vin et d'eau, asseyez-vous commodément et bavardons, à moins que vous ne préfériez que j'envoie James au lit. » James songea Henry James avec un mépris croissant. Le gentleman en question, à moins que Madame Watson ait eu un amant caché sous la table, devait être son mari, John Watson. Cet auteur ne se donne-t-il même pas la peine de relire les épreuves de ses écrits? Dans la même nouvelle, Holmes révèle la véritable identité d'un détenu en frottant le visage crasseux de l'individu avec une grande éponge mouillée qu'il avait eu la bonne idée d'apporter à la prison.
retirant ainsi, d'après l'auteur, des couches de maquillage de comédien. Henry James, qui venait de passer des mois à parcourir l'Angleterre avec la troupe de théâtre interprétant sa première pièce, l'Américain, savait que l'éponge mouillée de Holmes n'aurait pas pu avoir l'effet escompté. Tous les comédiens qu'il avait observés appliquaient avec soin une couche de cold cream avant de retirer leur maquillage de scène. Et il en allait ainsi dans la suite du volume, une idiotie succédant à une autre au fil des nouvelles. James ne referma le recueil que lorsqu'un valet de pied vint annoncer que tout le monde se retrouvait dans le salon pour prendre un thé ou un verre avant le dîner. Sa boiterie n'était pas feinte quand il descendit, et en réponse à la question soucieuse de John Hay, il dut admettre que sa goutte faisait des siennes. Le dîner se passa en petit comité. John Hay se montra expansif, joyeux et parfait dans le rôle de l'hôte. Clara fut charmante et s'assura que tout le monde était intégré à la conversation. Jan Sigerson décrivit le plaisir qu'il avait eu à voir le Capitole d'un blanc étincelant, entre autres merveilles, dont le département d'État au bout de la rue, où Hay avait travaillé pendant des années, et que James considérait comme une monstruosité baroque évoquant un gâteau de mariage. L'écrivain demeura silencieux, se contentant de quelques hochements de tête et sourires appréciateurs. Les autres durent mettre son silence sur le compte de sa goutte, bien qu'il ne fût jamais très bavard à table. En vérité, James examinait avec attention ce Sherlock Holmes Jan Sigerson. Oui, c'était bien lui, James, qui avait reconnu Holmes dans l'obscurité presque totale du bord de la Seine, car malgré le nez remodelé au latex, le postiche et le maquillage, qui ne seraient pas partis d'un simple coup d'éponge mouillé, le visage émacié était bien le même. Mais James commençait à changer d'avis à propos de Holmes et de son propre projet de parler à John Hay en privé après le dîner pour lui révéler, avec moult excuses, la supercherie et l'identité du charlatan qu'il avait introduit chez ses hôtes. Non, le lendemain serait préférable. Mieux valait attendre que le véritable explorateur et alpiniste Clarence King démasque Holmes, ou que l'émissaire norvégien perce le déguisement superficiel. James pourrait alors faire semblant d'être aussi choqué que les autres convives. Ce serait gênant, certes, mais ses vieux amis ne lui en tiendraient pas forcément rigueur. Holmes serait chassé, James s'excuserait auprès de John et de Clara pour sa naïveté impardonnable, et il reprendrait sans tarder un bateau pour l'Angleterre, et l'affaire serait close. Hay convia les hommes dans sa bibliothèque pour prendre un cognac et des cigares, mais James ne s'attarda pas. Prétextant sa goutte, il remonta vite dans sa chambre, laissant son hôte et Sigerson discuter du cours de l'or en Europe, du récent massacre de milliers d'Arabes par des cannibales au Congo, et de la possible injustice faite à Lesseps, le bâtisseur de canal, condamné pour détournement de fonds.